Vous écoutez France Culture.
Il est 11h en ce premier dimanche de septembre. Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous. C'est Michel Schaeffer au micro en direct de Mialet dans les Cévennes pour vivre avec vous le traditionnel rassemblement protestant, l'Assemblée du Désert. Comme chaque année, je tiens à remercier particulièrement Philippe Meyer de l'émission L'Esprit Public. Il nous laisse sa place à l'antenne pour cet événement et je salue tous ses auditeurs qui le retrouveront dès la semaine prochaine et que j'invite bien sûr à rester avec nous jusqu'à midi. Si vous ne connaissez pas l'Assemblée du Désert, sachez qu'elle rassemble chaque premier dimanche de septembre des milliers de protestants. Aujourd'hui, on estime entre 15 et 20 000 personnes présentes ici sous le site, sous les arbres, pour un culte en plein air. Donc il faut ainsi mémoire aux protestants persécutés pour leur foi au XVIIe et XVIIIe siècle, des protestants qui se rassemblaient alors clandestinement en des lieux déserts pour célébrer leur culte, au risque, s'ils étaient pris, d'être condamnés aux galères à vie. Le thème choisi pour cette Assemblée du Désert 2016, les réfugiés protestants de la Révocation, un thème proposé en écho à une actualité plus ou moins propulsée au devant de la scène médiatique au fil des mois et qui concerne les milliers de familles qui fuient la guerre dans leur pays et qui cherchent désespérément une terre d'asile. Une actualité qui ravive la mémoire protestante de l'hospitalité à l'égard des réfugiés huguenots du temps de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, quand des protestants français, se sentant contraints à l'exil malgré l'interdiction de quitter le royaume, arrivaient au péril de leur vie en terre étrangère, démunis de tout. Une mémoire protestante qui a sans doute joué également dans l'engagement de nombreux militants de la CIMADE depuis 1940 en faveur des étrangers internés ou réfugiés en France. Le culte va maintenant commencer. Il est présidé par le pasteur Alain Arnoux de l'Église protestante unie de France dans la Drôme provençale, à Bourdeaux, Dieufy, Valden. Il est monté en chaire devant donc l'importante assemblée qui a déjà assisté il y a quelques instants ici à quelques baptêmes. Trois adultes et un enfant ont été baptisés. L'assemblée est maintenant prête, comme vous, je l'espère, à assister à ce culte.
Frères et sœurs, assemblés au désert, et vous, frères et sœurs, à l'écoute de la radio, tournons-nous vers Dieu maintenant. Notre aide est dans le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au début de ce culte, écoutons comment Dieu veut être servi. Écoute, Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune idole, ni aucune représentation des choses qui sont là-haut dans le ciel, ici-bas, sur la terre et dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Tu ne prononceras pas à tort le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien qui appartienne à ton prochain. Et voici comment le Seigneur Jésus nous dit d'obéir à cette loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, en présence du Dieu Saint, que chacun de nous confesse humblement ses péchés, en priant dans son cœur avec les mots de nos pères. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes pécheurs. né dans la corruption, enclin au mal, incapable par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé, et nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une vraie repentance, recourant humblement à ta grâce et te suppliant de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes et en étant vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter la première strophe du cantique 407 « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. » Jésus-Christ dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » À cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui souffrent des contradictions de leur vie et qui mettent leur confiance dans l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et il nous conduit dans la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter les trois strophes du cantique 631, « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour ».
Thank you.
Je vous invite à la prière. Seigneur et Père, depuis les origines, tu parles aux hommes sans te lasser, sans te décourager. Loué sois-tu, Seigneur. Ta parole, nous la trouvons dans les Écritures que nous allons ouvrir maintenant. Nous te remercions pour les générations qui nous les ont transmises et pour tous les chrétiens qui les ouvrent aujourd'hui dans le monde entier. Que ton esprit souffle maintenant sur les vieux mots du vieux livre. Qu'il leur donne force et vie afin que nous les recevions comme une parole neuve, une parole d'aujourd'hui. Et que ton esprit souffle maintenant sur nos intelligences et nos cœurs, afin que nous nous rangions à ta parole et que nous vivions à la gloire de ton nom, en communion avec ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons les Écritures, tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 24 à 33. Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Béelzéboul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et dans le premier testament, nous lisons au psaume 124. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je vous invite à chanter les quatre strophes du cantique 151 « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ».
Thank you.
Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est un cri de soulagement et de reconnaissance poussé il y a très longtemps par un homme d'Israël. Était-ce David, était-ce un autre? On ne sait pas dans quelles circonstances. L'existence physique et spirituelle du peuple avait été menacée. Le Dieu d'Israël était intervenu. Le peuple avait survécu. Depuis, ces paroles ont pu être reprises plus d'une fois. L'invitation à cette assemblée au désert consacrée aux réfugiés protestants français de la Révocation indique que cette parole a été citée en 1689 par un pasteur réfugié en Suisse. Il a exprimé ainsi le soulagement et la reconnaissance de tous les Huguenots français qui ont choisi l'exil pour vivre leur foi au grand jour, après tous les déchirements et tous les dangers que leur imposaient le départ et le parcours et les difficultés de l'installation dans une terre étrangère. Il en sera question cet après-midi. Cette parole dit aussi la reconnaissance de toute Église qui survit à une persécution. Elle peut dire aussi, je pense, le soulagement de tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont pu fuir un pays d'oppression pour une terre de liberté, quelles que soient les difficultés à trouver leur place dans cette terre de liberté, parce que pour eux, l'essentiel est préservé, leur liberté de vivre au grand jour, selon leur conscience. Ceux-là ont pu fuir. Ici, au musée du désert, en ce lieu où se rassemble la mémoire des Huguenots qui sont restés, qu'il me soit permis de nous tourner un instant vers le passé. Ceux-là, ceux qui sont restés sur place, ceux qui ont résisté sur place, je crois qu'eux aussi pouvaient dire, même sous la persécution, « Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Car je crois que les persécutés sont toujours plus libres que leurs persécuteurs, plus libres que les convertisseurs, ceux qui grondaient de honte et de colère en disant les mots et en faisant les gestes qu'on exigeait d'eux, plus libres que le roi soleil qui voulait assurer son salut éternel par la conversion des hérétiques, le paysan mal converti qui chantonnait les psaumes avec sa famille. Plus libre que les espions et les dragons, ceux qui prenaient le risque d'aller à une assemblée clandestine. Plus libre que l'aumônier qui avait demandé la bastonnade et que le garde-chourme qui l'a donné, le galérien qui la subissait, pour avoir refusé d'enlever son bonnet à la messe. Plus libre que toute la cour parfumée, la prisonnière de la tour dans la misère et la promiscuité, qui refusait de dire les trois mots qui auraient pu la libérer. Je me réunis. Plus libre que ces juges et que le bourreau, celui ou celle qui montait à l'échafaud en chantant les psaumes. Plus libre que tous ceux qui peuvent massacrer les corps, les innombrables martyrs des régimes totalitaires du XXe siècle. Et ces 21 chrétiens coptes, à genoux devant leurs égorgeurs, murmurant le nom de Jésus au moment de mourir sur une plage de Libye l'an dernier. Et tous les autres, croyants ou non, chrétiens ou non. Richard von Brandt, ce pasteur roumain longtemps emprisonné et torturé, a écrit « Broyez une fleur entre vos mains, elle se vengera en répandant son parfum. » Notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Bien sûr, il y a la révolte et la résistance de tout esprit humain contre ceux qui veulent l'obliger à se renier, à se soumettre, à s'assimiler. On peut avilir à l'extrême un être humain. On peut briser son corps, le pousser au désespoir, le pousser même à se détester, d'avoir trahi ses convictions dans la douleur. Jusqu'au bout, il reniera son reniement, il refusera de se rallier. à ce que représentent ces tortionnaires se rase dans la honte et dans le repentir. Mais avec le psaume, nous pouvons aller plus loin. Dans notre traduction, il y a le mot « âme », ce mot ambigu, ce mot vieilli, ce mot fané. Notre âme s'est échappée. Jésus le reprend. « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Je propose de le comprendre ainsi. L'âme, c'est ce que l'Esprit de Dieu a déjà transformé et continue de transformer en nous. C'est tout ce qui en nous est guéri, délivré, purifié par la présence et par l'action de Dieu. L'âme, c'est tout ce qui en nous a commencé à ressusciter et à vivre avec le Christ, tout ce qui a commencé à ressembler à Jésus-Christ. C'est tout ce qui en nous est animé par le souffle de Dieu, ce qui vit déjà de la vie de Dieu. C'est le Christ en nous. Si donc nous gardons ce mot, notre âme, malgré son ambiguïté, comprenons qu'il s'agit plus que de survivre à des souffrances, plus même que d'avoir refusé de se rallier à ce que représentent des persécuteurs. Il s'agit de rester unis au Christ, de continuer de vivre dans son esprit, de continuer de lui ressembler. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiselaires. Le filet s'est rompu, nous nous sommes échappés. Le filet des oiselaires, le piège, cela peut être la persécution violente, la volonté de faire disparaître ceux qui pensent, ceux qui prient, ceux qui vivent autrement, soit en les détruisant physiquement, soit en les forçant à s'assimiler. Notre époque montre que cela existe toujours, mais le filet des oiseleurs peut être plus subtil que cela. C'est la haine en retour et la violence qui peuvent monter en nous et tout emporter. Ce sont les slogans toujours simplistes qui peuvent parler en nous plus fort que l'Évangile. C'est la récupération du christianisme par ceux qui veulent habiller leur peur et leur haine sous un noble drapeau et qui voudraient nous séduire ainsi. Si nous succombons à cela, nous nous laissons dominer par ceux qui nous haïssent et nous leur ressemblons. Nous devenons aussi captifs qu'eux. Nous renions le Christ et c'est ce qu'ils veulent. Nous chassons le Christ de nous et notre âme nous quitte avec lui. Le filet des oiseleurs, frères et sœurs protestants, cela peut être aussi le souvenir de la fidélité des ancêtres s'ils nous dispensent de prendre Dieu au sérieux aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que le filet des oiseleurs peut prendre d'autres visages, des visages séduisants, qui nous invite à penser que toute notre vie est comblée par la satisfaction de nos besoins matériels et physiques. Je ne veux pas développer cela maintenant, mais j'invite chacun à réfléchir à tout ce qui envahit sa vie et peut le détourner de la lecture de la Bible, de la prière et du culte, à tout ce qui peut l'enrouler autour de lui-même, le dessécher, le rendre insensible à la détresse des autres et au prix payé par la création. L'apôtre Paul a écrit aux Galates, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La liberté que le Christ nous donne, c'est la liberté à l'égard de tout ce qui nous sépare de Dieu, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui ravage et détruit le monde, de ce qui commande les actions des hommes, haine, rapacité, soif de pouvoir, et j'y ajoute la désespérance. La liberté que le Christ nous donne, c'est celle de partager sa vie, de lui ressembler, de vouloir ce que Dieu veut et d'aimer ce que Dieu aime. La liberté que le Christ nous donne, c'est l'œuvre de son esprit en nous, c'est la vie du Christ en nous. Elle peut être menacée, atteinte, blessée par une volonté politique ou par tout ce que l'apôtre appelle les puissances de ce monde. Elle peut être aussi menacée, atteinte et blessée quand la maladie, et le handicap transforment le corps en prison. Et pourtant, nous savons que des persécutés l'ont vécu autrefois et que d'autres la vivent aujourd'hui même. Et nous connaissons tous des personnes qui la vivent et qui la rayonnent dans la prison de leur corps. Parce que cette liberté ne vient pas de nous. Et parce que la force pour la vivre ne vient pas de nous. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je veux achever par cette question. Cette liberté est là. L'avez-vous accueillie? Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je vous invite à chanter les 5 strophes du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Pendant les chants, vos offrandes vont être recueillies. Souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux.
Vous êtes toujours à l'écoute de France Culture en direct de l'Assemblée du Désert à Mialet, dans le Gard. Le culte est présidé par le pasteur Alain Arnoux de l'Église protestante Unie de France dans la Drôme, dont nous venons d'entendre la prédication. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que le thème choisi pour cette Assemblée du Désert 2016 est les réfugiés protestants de la révocation, un thème proposé en écho à une actualité qui fait plus ou moins la une de nos journaux au fil des mois, mais qui est toujours aussi dramatique et qui concerne des milliers de familles qui fuient la guerre dans leur pays et qui cherchent désespérément une terre d'asile. Alors pendant que la chorale chante et que la collecte va être collectée, nous recevons Antoine et Georgina Dufoy, tous deux très sensibles à la question des réfugiés et qui s'intéressent à leur accueil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai lu dans le journal Réforme de septembre 2015, il y a tout juste un an, donc vous étiez sensible, comme beaucoup d'autres, à la situation des réfugiés, et que donc Georgina Dufoy et son mari ont décidé de mettre à disposition 2 grands appartements, ce qui sous-entend bien sûr de renoncer à leur location. C'est ce qui était indiqué dans le journal. Alors, quelle était votre motivation à l'un et à l'autre pour accueillir ces personnes?
si je peux dire effectivement qu'au bout d'un an, nous hébergeons deux familles de réfugiés syriens, c'est certainement pas pour pleurer sur les quelques sous de location que nous pouvions recueillir.
D'accord.
Sur, non pas des appartements, mais carrément des maisons, puisque nous sommes dans une propriété aux portes de Nîmes, et que la chance a voulu que nous ayons aménagé ces maisons qui se sont trouvées libres il y a un an. Un an, et la sensibilité il y a un an, souvenons-nous, de ces hordes du Proche-Orient qui traversaient l'Europe à pied dans des conditions épouvantables. On ne pouvait rester les bras ballants.
Vous aviez la possibilité donc d'accueillir des familles, vous en avez accueilli deux, c'est ça ?
C'est ça, oui, parce que finalement, les possibilités matérielles d'accueil étaient là, mais ce qui a été plus fort pour prendre notre décision, c'est l'intime conviction que nous avons eue.
Que tu as eue, d'ailleurs.
Que j'ai eue, personnellement, mais je crois que mon épouse, Georgina, l'a immédiatement partagé, que nous devions faire quelque chose. On ne pouvait pas rester inactif devant tant de misère qui venait vers nous,
oui.
Alors que nous avions à la fois la capacité et la possibilité d'accueillir.
Alors après, maintenant, ça fait un an que vous avez pris cette décision, vous avez accueilli ces personnes. Est-ce que après ces quelques mois, vous pouvez, vous êtes toujours d'accord avec votre décision? Et est-ce que vous êtes heureux de cet accueil?
Certainement. On ne le regrette pas. Et je pense que dans les années qui viendront, nous ne le regrettons pas.
Il s'agit donc de deux familles. Une famille qui a quatre enfants et une famille de trois enfants. C'est deux familles très différentes au point de vue sociologique et même au point de vue intellectuel. Ce sont deux familles qui, pour toutes les deux, souffraient gravement de la situation à Alep en ce moment. Mmh. Ce que nous avons demandé, et qui était le cas, c'est que nous avons demandé à accueillir des chrétiens. Alors les gens nous ont dit, mais pourquoi des chrétiens? C'est pas juste, tout le monde est persécuté. Oui, mais les chrétiens sont deux fois persécutés. Ils sont persécutés par la guerre et ils sont persécutés pour leur religion. Et c'était aussi pour nous une façon de rappeler que nos familles huguenotes ont été accueillies en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, parfois aux États-Unis. Pour notre famille à nous, personnellement, c'était surtout en Suisse et en Allemagne. Ils ont été accueillis, et s'il n'y avait pas eu des familles pour les accueillir, eh ben, on n'existerait pas aujourd'hui.
Oui.
Donc, ça, c'est un peu rendre à la vie ce que la vie a donné à nos ancêtres, qui a fait que nous avons demandé que ce soit des familles chrétiennes. Et on s'est aperçu, en les accueillant, comme Antoine a dit, il ne s'agit pas du tout uniquement d'un problème matériel, pas du tout. Je dirais que ça, c'est un tout petit peu. Ce qui nous a demandé un investissement très fort depuis 8 mois à Antoine et à moi, ce sont essentiellement la vie quotidienne,
oui,
de gens super différents, qui avaient des attentes différentes, des peurs différentes, et puis des difficultés majeures. C'est-à-dire d'abord la trouille terrible de la guerre qui les avait environnés. Et puis la langue, ils ne parlaient pas français.
Il faut aider ces personnes à s'insérer, à rentrer dans cette société, à y trouver des marques.
On reçoit des gens traumatisés par les bombes qu'ils ont physiquement reçues. Et nous étions devant un vide pour parler à une des deux familles qui ne parlait que l'arabe. Heureusement, dans l'autre famille, un peu plus instruite, nous avons pu échanger des mots d'anglais que nous connaissons. Mmh. Et grâce à cette seconde famille, au fond, la communauté a trouvé un langage commun qui était un peu l'anglais.
Un peu de Google Traduction aussi. c'est précieux, Google Traduction. On n'est pas dans des choses très raffinées, mais quand même, ça permet de se comprendre un peu, quoi.
Alors,
merci Google Traduction.
Alors vous êtes un exemple de personne qui accueillait. Vous avez choisi d'accueillir des chrétiens. Pensez-vous qu'en France, on puisse accueillir aussi d'autres confessions, des musulmans? Il y en a beaucoup sur les routes aussi aujourd'hui.
Oui, alors je vais réagir tout de suite sur le mot accueillir.
Oui.
Parce qu'au fond, accueillir, c'est, je dirais, un événement en accueil. On accueille à la frontière, on accueille à la descente de la passerelle de l'avion, mais là n'est pas le problème. tout le monde peut le faire. C'est accompagner qui est le vrai mot et plein de sens, parce qu'il y a la durée, il y a la persévérance, la constance dans le soutien quotidien d'une famille qui souvent ne parle pas ou parle mal et qui doit entreprendre d'abord des démarches pour être citoyen reconnu avec les papiers en règle, etc. Et ça, c'est une épreuve et une demande d'énergie considérable.
On a beaucoup appris depuis 8 mois. On a beaucoup appris sur eux, bien sûr, sur la Syrie, et c'est déjà pas très commode. On a beaucoup appris sur la France. Mmh. C'est-à-dire qu'on a fait, au fond, le parcours des gens en difficulté en France, que nous connaissions intellectuellement, mais que nous n'avions pas parcouru nous-mêmes. Nous avons parcouru tous ces chemins. Et de tous ces chemins, il reste beaucoup d'enseignements. D'abord, l'enseignement du fait que notre pays, la France, est beaucoup mieux que ce qu'on dit d'habitude, en ce sens que nous avons trouvé des gens, des fonctionnaires en particulier, absolument sensationnels, qui nous interrogeaient avec la précision normale, mais qui, la porte fermée après, nous disaient « Ah ben maintenant on va vous aider ». Et on a vu arriver des paquets de vêtements remarquables, adaptés aux enfants de l'une des deux familles, venant d'une fonctionnaire qui avait simplement fait son boulot avant et puis qui après ouvrait son cœur. Mmh. On a vu des gens à l'éducation nationale, mais fantastiques, qui nous appelaient jusqu'à minuit le soir en disant « Attendez, j'ai pensé, pour le petit Georges, peut-être qu'on pourrait trouver un autre système, etc. » Donc moi, j'ai trouvé vraiment épatant que nous ayons en France des ressources au-delà de l'administration qui sont réelles. Quoi.
Et que finalement, vous enclenchiez un mouvement d'accueil au sens entier du terme.
Effectivement, et l'accueil à ce moment-là prend tout son sens, parce qu'au fond, il consiste à mettre un peu en musique une solidarité de réseau que vous avez inévitablement, qu'il soit de la famille, qu'il soit des voisins, qu'il soit à la sortie de l'école, qu'il soit à l'église. Tous ces réseaux méritent qu'on les coordonne vers un but commun, vers ce besoin de dire « j'ai aidé, j'ai fait quelque chose ». Et il faut le satisfaire, mais bien l'harmoniser. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un gros travail, mais qui se fait dans la joie et dans beaucoup de satisfaction qu'on en retire.
Est-ce que vous pensez que ce travail et cette joie que cela apporte puissent se multiplier à l'échelle du monde qui frappe à la porte? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est une question qui traverse quand même la société aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop accueillir?
Oui, le risque existe, mais là on n'est pas en train de parler en macroéconomie ou en géopolitique. On est en train de parler individuellement, de personne à personne. Et il y avait un risque qui est apparu comme très clair à la fin de l'année 2015, après le Bataclan. Les journaux étaient pleins de témoignages de jeunes qui avaient été élevés en France, mais qui détestaient la France. Qui avaient été élevés en France, mais qui étaient frustrés. Qui avaient été élevés en France, mais qui disaient « c'est pas bien ce qu'on a été, ce qu'on a reçu ». Et ça faisait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce qu'en fait, c'est dommage. C'est de l'énergie perdue, c'est du cœur perdu. Ces gens étaient habités, sont habités, par une sorte d'esprit de frustration. Et la première des choses que nous nous sommes dit, c'est qu'il faut éviter ça pour les gens que nous recevons. Et là, je réponds à votre question quelque part. J'y réponds différemment que ce que vous l'avez posé. Je crois que l'important, c'est dans quel esprit les gens sont là.
Ça.
Et notre boulot a été, dès le premier jour, dès le deuxième jour, en voyant toutes les difficultés, de pouvoir dire on voudrait que l'esprit de frustration soit différent, soit remplacé par un esprit de reconnaissance. Et c'est pas commode. Mais je continue à dire ça en répondant à votre question. Hein. Peut-on accueillir? On peut accueillir, mais dans quel état d'esprit? Et quel est l'état d'esprit des gens accueillis? Et nous avons, pour arriver à faire ce passage, été aidés, moi je crois que c'est aidé par la présence de Dieu, en partageant avec eux une parole de la Bible qui est très connue, mais que nous avons lue en arabe, en anglais et en français, qui est Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon ses dessins. Mmh. Alors dire ça quand tout est vachement dur, c'est pas évident.
C'est sûr.
Mais comme c'était assez dramatique, on a pu le dire. Et c'était un des grands moments de notre début de vie commune avec ces 11 personnes. Le moment où on a dit, bon, on va ouvrir la Bible. Il y en a des catholiques, il y en a des grecs orthodoxes, et nous qui sommes plutôt protestants français, très différents donc, on avait la même parole et ouais. le même amour pour Christ. Et on a dit, bon, on va le lire, et on va penser que c'est vrai. On y va. Ça a transformé leur mentalité et la nôtre, parce qu'après on a eu des moments très durs par moments, très très durs. Des découragements, des dépressions, des tristesses, il y en avait plein. Et à chaque fois, on a rappelé que tout concourt au bien, et ça a donné une perspective. Donc, à votre question, peut-on accueillir ? Je dirais, on peut sûrement accueillir, mais tout dépend dans quel état d'esprit on est l'accueillant et l'accueilli. Mmh. Si l'accueilli dans un état d'esprit positif, qui dit, bon, tout concourt au bien, même quand c'est très dur, ben, l'accueil est tout à fait différent. Et moi, c'est à ça que nous aimerions contribuer, c'est à donner de notre personne, à donner du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent, mais dans un état d'esprit positif. C'est ça qu'on aimerait faire.
Mmh. Oui, parce qu'au fond, aujourd'hui, la question, c'est « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»
Oui, c'est ça.
Si vous voulez, tous nos enfants sont scolarisés, l'éducation nationale a fait son travail d'intégration, la langue française va être apprise et... un jour parler couramment par nos 11 amis, si je peux dire. Au-delà de cela, nous n'avons pas vocation, nous, à créer un accueil permanent, ni une usine à fabriquer des réfugiés heureux. Donc, ce qu'il faut, c'est dire à tous ceux qui ont cette démarche, faites-le dans cet esprit d'ouverture qui fait que... tout se passe bien, quoi. Et qu'à un moment, la dignité de chacun de ces réfugiés, en tant que citoyen français, redevient quelque chose de normal.
Alors, pour terminer peut-être cet entretien, vous avez, vous, la possibilité d'accueillir vous-même, chez vous, des personnes, ceux qui ne peuvent pas. Est-ce que vous pouvez... dire comment on peut participer à une dynamique d'accueil quand on ne peut pas individuellement.
Le président de la République a, dans un courage énorme, dit « nous accueillerons 30 000 réfugiés ». Vous vous souvenez de ce chiffre qui a fait bondir énormément de monde, mais qui était en fait tout petit par rapport à celui qu'Angela Merkel avait annoncé de l'autre côté de la frontière d'Allemagne. Imaginez que 37 000 communes françaises, allez, 30 000 en chiffres ronds, elles ont toutes un appartement disponible.
Absolument.
Mais c'est le cœur des citoyens, c'est le cœur de chacun qu'il faut réveiller. Et l'accueil, l'accompagnement, appelons-le comme on voudra, ça n'est qu'une affaire de solidarité et de générosité d'un cœur d'homme ou de femme qui se donne à une œuvre collective.
Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux, Georgina et Antoine Dufoy, d'être venus témoigner de votre accueil et de la façon dont on peut accueillir aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci bien.
Alors, on va continuer maintenant la retransmission de ce culte. La collecte a été collectée et nous allons reprendre ce culte avec le pasteur Alain Arnoux.
Je vous invite à la prière. Seigneur et Père, les offrandes ont été recueillies. Nous te remercions pour la joie de l'offrande que tu nous fais de ton amour, de ta présence, de ta promesse et de ton appel. L'offrande de notre liberté avec toi, l'offrande de notre communion avec toi. Nous te remercions pour la joie de l'offrande que tu nous permets de présenter, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre vie. Père, nous te louons en Jésus-Christ. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne en confessant, en suivant du cœur, ces paroles que nous avons reçues de nos pères. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter les trois strophes du psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Prions maintenant, non pas pour élargir le cœur de Dieu, mais pour élargir le nôtre. Prions non pas pour demander à Dieu de faire ce qu'il demande aux hommes de faire, mais pour renoncer à la pensée prétentieuse que tout dépend de nous et pour nous mettre humblement à ses ordres. Prions dans la confiance qu'il est là où nous ne pouvons pas être et qu'il peut agir là où nous ne pouvons pas agir. Prions les uns pour les autres et pour ceux qui nous sont chers. Prions pour le lieu où nous vivons et pour ceux que nous rencontrons et côtoyons. Prions pour toute l'Église chrétienne, ici et en tout lieu. Prions pour le monde, pour tous ceux qui y occupent des positions de pouvoir et d'autorité, pour tous ceux qui mènent un combat de justice et de paix, pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui font souffrir. Présentons au Seigneur tous les autres soucis que nous portons dans nos cœurs. Dieu de grâce et de gloire, tu nous appelles à ton service et au service de tout ce qui vit. Nous te louons. Par ton esprit, donne-nous d'aimer ce que tu aimes, de vouloir ce que tu veux et de vivre en communion avec ton Fils Jésus-Christ. Rassemblons toutes nos prières dans celles du Seigneur Jésus, en suivant du cœur ses paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, la scène va être célébrée. Nous prions instamment chacun de vous de rester dans le recueillement jusqu'à la fin du service. Au moment où ils y seront invités, les fidèles désirant partager la scène voudront bien avancer vers les groupes de table de communion par les couloirs réservés vers l'avant, en regardant la chaire. Je répète, l'accès se fait uniquement par l'avant de la chaire. Et dès le début du défilé de communion, veuillez dégager les deux couloirs de circulation pour créer le sens unique. Aux personnes handicapées placées à côté de la chaire, deux pasteurs vont venir maintenant vers vous si vous désirez prendre la scène. L'Assemblée est instamment priée de ne pas se disperser avant la fin du dernier cantique. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », fais briller la lumière dans nos cœurs et fais resplendir la connaissance de ta gloire sur la face du Christ. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, Toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang du Christ, car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte.
Nous allons terminer ainsi cette retransmission du culte de l'Assemblée du désert, présidée par le pasteur Alain Arnoux de l'Église protestante unie de France à Bourdeaux, Dieufy et Valden dans la Drôme. Les fidèles vont bientôt se déplacer pour communier. Un grand merci à l'équipe technique de Radio France, Fred Kérou, Marcos Darras, Bruno Lampert, une équipe qui a permis la retransmission de cet événement sur France Culture. Merci aussi à l'équipe présente sur place à la maison de la radio. Une émission proposée par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que le texte de ce culte sera disponible dès demain sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez recevoir ce texte par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009. Paris. Dans quelques instants, la suite du programme avec des nourritures plus gastronomiques que spirituelles. Il sera question de pâtes dans l'émission d'Alain Kruger. On ne parle pas la bouche pleine. Je vous retrouve dimanche prochain pour un petit déjeuner autrement nourrissant. Le service protestant. Bon dimanche à tous.